Chers auditeurs, après ces musiques classiques, ces musiques de chambre et ces recettes de boudin cuit, nous retrouvons les nouvelles de Radio Grouga.
Radio Grouga, la radio qu'elle est chouette à écouter.
And now it's time for Grouga Radio.
Maintenant, Radio Grouga.
Radio Grouga.
And now Grouga Radio.
Radio Grouga.
Grouga Radio.
In direct live, you're listening to Grouga Radio.
Et maintenant, Radio Grouga.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Christophe Bollinger. Christophe qui n'est pas que Monsieur Twister, puisqu'en octobre 2007, c'était comme ça que j'avais commencé l'interview. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Bonjour Christophe.
Bonjour, alors effectivement, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et ce n'est pas que Monsieur Dungeon Twister, puisque le premier jeu de Ludicali, on t'en parlera tout à l'heure, c'est pas Dungeon Twister.
Donc Ludicali, justement, ça c'est un grand moment dans la vie de Christophe Bollinger, puisqu'en fait maintenant tu es responsable d'une société d'édition.
Oui, alors je suis pas seul. C'est une idée que j'avais depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Je voulais monter ma boîte d'édition et je cherchais toujours le partenaire idéal. Et je l'ai trouvé en la personne de Jean-Charles Mouret à peu près l'été dernier en fait. Et en septembre, j'ai lancé un caillou dans la mare en lui disant « Tiens, voilà, moi je cherche à faire ça, mais tout ce qui est gestion, compta, machin... » Et apparemment, on avait toutes les compétences complémentaires ensemble. On a dressé une grille Excel avec toutes les compétences. Je les connaissais toutes de la création jusqu'au moment où c'est dans les magasins. Et il s'est avéré qu'on avait tout en commun et on a dit « Banco, on y va ». Et donc c'est Ludicali, on l'a monté à deux gens du sud près de Nice. Et notre premier jeu, c'était donc Différence. On a fait un petit party game qui tient dans une petite boîte pas chère. C'était une histoire de se faire la main. Et puis le jeu tournait vraiment, vraiment bien avec les vieux, les gosses, la famille, les hardcore gamers en attendant la grosse partie. Enfin, ça marchait avec tout le monde. Donc, on s'est dit, on fait Différence d'abord. Et puis après, derrière, le gros projet, c'était d'été avec des figurines, de la 3D et essayer de montrer qu'en jeune petit éditeur qui arrive, on pouvait faire peut-être aussi bien que les gros, quoi.
Et effectivement, il y a autre chose, c'est qu'en octobre 2007, justement, on parlait de « Tiens, il y aurait peut-être un Dungeon Twister sur Xbox ». Ben là, les écrans sont là.
Voilà. Alors, et à côté de ça, donc ça, c'est plus Ludicali, mais c'est Christophe Bollinger, l'auteur, qui avait signé, donc, justement, ben, le moment où on s'était vu, je crois. J'avais rencontré Hydravision pour la première fois. J'avais été contacté par d'autres maisons d'édition américaines et françaises à côté d'éditions de jeux vidéo. Et pendant quelques mois, j'ai été torturé. C'était pas évident de choisir, de faire le bon choix. Tu sais jamais dans ces cas-là. Et en fait, j'ai suivi par le cœur total et j'ai suivi Dravision et ils ont fait le vidéoclip maintenant que t'as peut-être vu de Dungeon Twister. Ils m'ont suivi dans tous mes délires jusqu'à les trucs les plus farfelus. Et c'est des gens qui viennent du jeu de rôle, qui viennent du jeu, qui ont des soirées jeux chez eux tous les mardis soirs, qui accumulent des jeux dans des salles. Et voilà, quoi, j'ai fait le bon choix de choisir, je pense, les gens qui marchent plus avec le cœur qu'avec le portefeuille. Alors qu'en face, j'avais d'autres sociétés, donc je nommerai pas ou quoi, mais qui étaient intéressées pour le projet, mais pour en faire du fric, quoi. Et moins pour le respecter jusqu'au bout, quoi. Donc on a une super symbiose avec Hydravision. Ils ont fait un produit du feu de Dieu, je l'ai pris en main dès le début, alors que je suis pas un joueur de jeux vidéo. Et voilà, ça devrait sortir en février-mars. Le trailer, le vidéoclip un mois avant sur YouTube et de partout. Et voilà, on espère que ça fera un gros boom et que ça fera. On a vraiment peaufiné le lien entre le jeu vidéo et le jeu de société, puisqu'on a des images en CGI, en synthèse, dans le jeu de société qui se fondent super bien avec le reste, comme le magicien, le mécanorque. Lui, là, il est en synthèse. Et ça s'intègre super bien et ils auront les mêmes poses, les mêmes mouvements dans le jeu vidéo. Donc les joueurs vont vraiment se sentir à l'aise en passant d'un support à l'autre.
Et donc ça rejoint l'optique dont tu parlais déjà, c'était le jeu vidéo c'est pas du jeu de société, mais en même temps j'ai des gars qui sont perdus dans leur coin et qui n'ont pas de copains avec qui jouer.
Ah, voilà, c'est exactement le cas de quelqu'un qui est passé avant, qui réclamait des goodies pour un pote à lui qui est à 100 bornes de Saint-Etienne. J'ai dit mais va faire des tournois et tout, il me disait non mais il n'y a rien autour, etc. Il joue tout seul à la solo, il a acheté, il est trop content d'avoir la solo qu'il y a dans DT Prison, la version solitaire. Et le pauvre c'est vrai qu'il est coincé. Donc après effectivement quand il est parti, je dis bon ben il pourra jouer contre moi ou contre d'autres sur la Xbox le soir à n'importe quelle heure quand on aura une demi-heure de libre, quoi.
Alors justement le Dungeon Twister Prison, c'est quoi la nouveauté dedans?
Alors Dungeon Twister Prison, pour le joueur, imaginons le joueur qui a tout depuis le début, y compris les goodies et tout ce qui est sorti, il y a quand même pour lui dedans 85% de nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a 8 nouvelles salles, 5 nouveaux persos sur les 8. On a gardé le magicien, le mécanorque et le clerc pour l'identité aussi avec le jeu vidéo. Et puis pour le clerc, il fallait bien qu'on puisse soigner. Puis le mécanorque, tu le verras dans le clip, c'est un peu la star du rap. On a le magicien qui se prend pour Michael Jackson, donc il y a un peu tout ça. On pouvait pas les virer ceux-là. Donc après, il y a la version solo qui est dedans, qui représente quand même un gros paquet de cartes. Les cartes de jeu, en parlons-en, elles sont en format Magic maintenant, plus au petit format, donc on peut les glisser dans des protecteurs pour les ranger. Donc la version solo est un plus et utilise beaucoup de cartes. Il y a 38 pions pour la solo qui sont violets, qui peuvent aussi servir à faire du 5-6 joueurs, pourquoi pas, pour ceux qui ont déjà la 3-4. Et puis surtout, il y a 16 figurines, dont la plus grosse fait 6 cm et demi. qui ont un système très novateur sous le socle permettant de récupérer les objets et de se trimballer avec en les faisant glisser, en glissant la figurine. Elles sont très finement sculptées et ont les mêmes détails que les figurines résine qu'on avait pour Fenrir. Et enfin, petite cerise, grosse cerise sur le gâteau, on a un thermoformage, le plus taré que j'ai jamais vu de l'histoire du jeu. On peut ranger presque 40 figurines, chacune individuellement dans des slots protégés une fois qu'elles sont peintes. Une vingtaine de salles, des pions par petits slots séparés, 8 objets, 8 personnages, 6 objets de partout dessous, jusqu'à ranger 6, jusqu'à 6 extensions à peu près. On peut mettre 4 réglettes, donc se faire une boîte 4 joueurs, on peut mettre 4 paravents, et quand vous avez blindé votre boîte de tout ça, la solo, les dés pour la solo, tout ça, vous pouvez retourner votre boîte, danser avec, faire ce que vous voulez avec. Quand vous la rouvrez, toutes vos figurines n'ont pas bougé, vos pions n'ont pas bougé. Et si vous avez peint avec toute l'âme et le cœur, bah vous êtes content de les retrouver en état nickel.
Exactement. La version solo de Dungeon Twister, ça se passe comment ?
Alors la version solo, en fait, on joue donc contre une sorte d'intelligence artificielle. Elle est gérée par un set de 32 personnages qui sont en pions violets et qui ont 32 cartes qui leur correspondent. Ces cartes, en fait, elles indiquent des comportements pour chaque personnage. Alors pourquoi il y en a 32 ? Parce qu'il y a chaque personnage y est 4 fois. C'est-à-dire qu'il y a 4 clairs, 4... Il y a 4 nagas, 4... mais ils ont tous un nom différent et tous des comportements différents. Certains essayent de sortir, d'autres sont curieux, ils vont vouloir révéler les salles, des autres vont vouloir attaquer, il y en a qui foncent vers la rotation, voilà. Donc en gros, la solo, c'est un peu comme une réussite où on enchaînerait les remue-ménages comme on les mettait dans les magazines, en JSP ou sur Internet. Et à chaque tour, on est devant un défi que nous pose en fait l'intelligence artificielle en face. Il faut toujours marquer 5 points de victoire, traverser le plateau, aller en face, etc. La solo est divisée en 6 niveaux de difficulté, colorés, de rose jusqu'à noir. Donc on peut jouer au niveau rose, rose tantine, ou au niveau noir, piste noire, bien gros champ de boss. Et au niveau noir, pour arriver à la battre, il faut vraiment être parmi les bons joueurs qui ont fait beaucoup de tournois. Donc le joueur se règle où il veut, et chaque partie est totalement différente, parce que les salles sont au hasard, les personnages qui viennent sur les 32, c'est jamais les mêmes. Pour avoir une partie avec... 4 colosses en face, mais il faut savoir les gérer, donc voilà. Donc jusque là très très bons échos, les joueurs se demandaient tous mais comment on peut faire une version solo avec un jeu si complexe entre guillemets, si riche et si stratégique.
C'est toi qui l'as dit.
Et en fait je suis allé voir les critiques sur le net, je crois que tous les mecs qui l'attendaient sont assez fans. Il faut savoir quand même qu'en face l'intelligence artificielle a souvent un peu plus de personnages que vous et fait plus d'actions que vous. C'est ce qui rattrape. C'est-à-dire, j'ai pas réussi quand même à développer un cerveau humain en face. Mais il y a plus de personnages, mais les actions qu'ils font, des fois, ils font des trucs pandards. Il va se sauver avec la passe muraille ou un truc.
Comment se gère l'action de cette intelligence artificielle ?
Et bien, en fait, sur la carte, le personnage, il a des objectifs prioritaires. S'il peut faire, par exemple, sortir, il va le faire en premier. Il a 5 PA pour faire ça. Sinon, il va essayer d'attaquer. Et pour s'il doit attaquer, il a une liste de priorités de personnages. S'il a un magicien ennemi le plus proche et qui peut l'attaquer, en 4 PA, ben hop, il va le faire. Etc. Donc il y a une priorité personnage, une priorité d'objectif, une priorité d'objet, et chaque PNJ en plus de ça, en bas, il y a une petite zone de pouvoir spécial. Chaque PNJ a un petit pouvoir spécial qu'on n'a pas dans le jeu quand on joue à 2 joueurs.
Ok, donc ça c'est Dungeon Twister. Ouais, c'était le volet Dungeon Twister. Maintenant il y a autre chose qui vient de sortir, tu me disais.
Donc en fait c'est sorti même juste avant, mais mi-juillet, donc en plein milieu de l'été, c'était passé un peu inaperçu. On a sorti un jeu qui s'appelle Difference, ou What's Missing, qui est un petit jeu de cartes format pocket, comme les jeux kangourous de chez Asmodée, comme les loups-garous tiers lieu et tout ça. Et qui est un jeu, mais alors ultra simple, je mets 15 secondes à l'expliquer. Je pense que c'est impossible pour moi de faire plus simple que ce jeu de toute ma carrière. On a des cartes qui ressemblent, qui ont l'air d'être toutes les mêmes, elles sont recto verso. D'un côté, il y a un paysage qui représente vacances à la plage, typical Côte d'Azur chez nous. Et puis de l'autre côté, c'est vacances à la montagne, dans les Alpes, ou Suisse, ou quoi, un peu derrière chez nous. On choisit de quel côté on joue. Le côté montagne est plus facile que le côté plage. On divise les cartes entre tous les joueurs. On peut jouer de 2 à 6, même 1. Il y a des gens qui jouent tout seuls pour s'entraîner. Ça marche. On l'a pas mis sur la boîte parce qu'on a vu ça après. Donc de 2 à 6, on divise les cartes entre les joueurs. On en laisse une au milieu qui est le modèle. Tous les joueurs prennent leur paquet de cartes dans la main. Et sur la première carte, ils cherchent 2 différences entre la carte qu'ils ont devant eux et le carte modèle qui est au milieu. C'est simultané, tout le monde réfléchit en même temps. D'ailleurs, à ce moment-là, ce qui est marrant, c'est que toutes les têtes se collent. S'il y a 6 joueurs, on n'arrive pas à prendre une photo du modèle, parce que toutes les têtes se collent et se tiennent chaud. Faut pas avoir de poux, sinon on va se faire filer. Et puis, le premier qui a trouvé dit stop, il met sa carte à côté du modèle, il monte les deux erreurs. S'il ajuste, il met sa carte sur le modèle, ça devient le nouveau modèle. Et il va orienter la pile de cartes vers lui, bien sûr, pour s'avantager. Parce que quand on est à 6, tout le monde n'a pas le paysage dans le bon sens. Et là, ça fait rager tout le monde, c'est mort de rire. Tout le monde est là à venir se coller les têtes en plus, à se tordre les têtes et à chercher les erreurs. Le premier joueur qui s'est débarrassé de toutes ses cartes a gagné. Et on continue pour trouver le deuxième, troisième, jusqu'au dernier. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en général, les 5 joueurs qui ont déjà fini aident le 6e à finir sa pile parce que l'autre, il devient fou. Ce qu'il faut que je dise quand même, parce que c'est vrai que c'est un sentiment que beaucoup de joueurs ont et que moi aussi j'ai eu au début, beaucoup de joueurs pensent que comme c'est un jeu basé sur les différences, quand tu as vu toutes les différences une fois ou deux, le jeu est fini, c'est perdu. Comme ça sort dans le désordre, etc., je peux vous certifier que même moi qui l'ai designé, si je joue avec des gens qui ont fait une ou deux parties, un groupe de 5, j'ai de grandes chances de finir 3e, 4e, voire 5e. Et j'ai fait le test plein de fois. Et je me force pas à perdre, je peux vous jurer. Ce que je veux dire par là, c'est que on scotche toujours quand même, comme elle sort dans la dame, on scotche toujours sur les différences. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas faire, la première partie, effectivement, va générer une différence. Si je joue la première partie avec toi, avec trois autres personnes, je vais gagner, c'est certain, parce que je les ai vus au moins une fois. Mais si je laisse 4 joueurs jouer tout seuls, je leur apprends le jeu, je les laisse découvrir, et que je rentre dans la deuxième partie, dès la deuxième partie, ils ont tous vu que je finis 3e ou 4e ou 5e. Et c'est ce qu'il faut, le défaut du jeu, car il en a un, c'est si vous voulez le présenter à des gens, il ne faut pas jouer la première partie. Sinon, vous allez les blaser. Voilà. Après, à la deuxième et la suite, vous pouvez y aller. Alors, ce qu'on avait prévu de faire, maintenant, est-ce qu'on aura le temps, c'est que quand le premier tirage sera épuisé, plutôt que de retirer exactement le même dessin, on ressort le même jeu, mais avec d'autres dessins, d'autres paysages, ailleurs, d'autres thèmes. Ce qui fait que les gens qui l'ont déjà, bon, s'ils ne veulent pas le racheter, ben, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pareil, c'est le même jeu, mais avec d'autres dessins. Et ceux qui ont vraiment adoré, on va mettre sur Internet des variantes pour mélanger des boîtes et pouvoir jouer à 12, pouvoir avoir d'autres styles de jeu. Parce qu'il y a déjà une variante dans le jeu où on pose les cartes sur la table et on fait une grille. Il y a déjà une variante dans la boîte qui rend le jeu encore un peu plus casseur de cerveau. Voilà. Mais bon, c'est un jeu qui démarre à 5-6 ans et qui va jusqu'aux grands-mères et aux grands-parents, puisque les gens connaissent tous ces différences qu'il y a derrière les magazines. Et c'est tellement simple et rapide à expliquer. Les personnages âgés aiment bien faire travailler leur mémoire, leur recherche visuelle. Et paradoxalement, on a quasiment vendu autant de boîtes à des retraités qu'à des enfants ou des familles. Voilà.
Donc bien joué. L'autre nouveauté, c'est Space Pirate ou quelque chose comme ça ?
Ah oui, alors là, c'est pas Ludicali, mais j'avais signé effectivement avec Sirius un premier jeu. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième qui se pointe pour l'année prochaine, pour Nuremberg normalement. Donc là, il s'agit de Space Pirate. Mon jeu s'appelait Les Pêcheurs. C'est un peu l'Arlésienne. Il avait été signé chez Tissit et puis chez ProLudo. Et puis voilà, quoi, il y a toujours une histoire ou un truc et il n'est jamais sorti. Là où je suis super content, c'est que Sirius a vraiment fait un boulot production, graphique et tout. Les tables désemplissent pas chez Sirius. Et il y a beaucoup de gens qui l'achètent parce qu'il est beau et parce qu'en fait c'est un jeu assez original. C'est un mélange de pichenette, de jeux de figurines, bateau à la Manowar Games Workshop, un jeu de ce qu'on appelle en France un jeu de pute. Voilà,
où on se fait des dit-il avec des guillemets avec ses doigts.
Un jeu où on se fait des coups bas entre les uns les autres, un jeu typique à la française et un jeu de gestion à l'allemande parce qu'on doit gérer ses cartes fuel et les ressources qu'on pique aux différents cargos qu'on intercepte, aller les revendre aux bons endroits sur les bonnes planètes où ils les achètent bien cher. Donc il y a de l'allemande, il y a de la figurine, il y a de la pichenette et il y a du coup de pute à la française. Et apparemment, Sirius a l'air de dire qu'ils sont super contents. Je suis content de la boîte, de la cover, de tout ce qu'ils ont fait. C'est du beau boulot, quoi.
C'est bien tout ça. L'idée de Ludicali, c'est d'aller, c'est de supporter les idées tout à fait éclectiques de Christophe Bollinger, parce que finalement, tu tires un peu dans tous les coins, quoi.
Bah en fait, voilà, ce qu'on a voulu montrer en sortant de différence, c'est une petite boîte à 9€ et un jeu familial en 15 secondes, et d'été, grosse boîte à la Games Workshop ou FFG derrière, c'est voilà. La maison d'édition de jeu que j'ai toujours rêvé de monter, c'est une maison qui n'a pas de ségrégation ludique, qui peut sortir un nouveau Scrabble pour les retraités parce que je l'ai testé et que je trouve qu'il est exceptionnel, parce que j'y crois, comme des jeux qui se jouent que dans une piscine, donc là ça s'adresse à des gens qui ont des piscines, comme un petit party game, comme un jeu qui joue sur CD, comme un jeu pour les enfants en 3D, comme un gros jeu à la Games Workshop. Donc je pense qu'on va alterner des gros jeux comme Dungeon Twister, comme j'ai un Special Clike qui est fini depuis quelques temps, mais bon voilà, il faut trouver un peu les budgets pour le subventionner, pour le faire. Donc voilà, on a des party games. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai énormément de projets sous mon nom. Donc, on se refuse pas de regarder des jeux des autres, mais on a déjà les cartons bien pleins pour les mois à venir. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui me montre un truc qui me fait waouh, une bombe, oui, je la prends. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé.
Ça veut dire que donc Ludicali éditera des jeux qui ne sont pas spécialement de Christophe Bollinger, et Christophe Bollinger continuera à sortir des jeux chez d'autres éditeurs.
Oui, je suis aussi indépendant encore à côté, la preuve avec Sirius. Moins sûrement, parce que j'aurai moins de temps à consacrer, mais on me contacte encore pour des adaptations. Il y a un autre jeu qui sortira chez Sirius normalement en février, enfin à Nuremberg. Quoi, voilà. Donc non, j'ai encore une activité à côté, moins grosse certes. J'ai encore plein de protos qui existent et que j'ai jamais placés, donc on ne sait jamais. Et puis on va supporter Twister, donc s'il part bien, il y aura des extensions, il y aura d'autres gros jeux, il y aura des petits jeux. Et puis voilà, je suis ouvert aux autres auteurs, mais autant le dire tout de suite, il faut que ça soit des trucs, des olni, comme je dis, des objets ludiques non identifiés, voilà, et qui ont un potentiel sûr. Il faut que ce soit olni et qui donne envie de rejouer, forcément.
Merci Christophe, et bon vent à Ludicali aussi alors.
Merci, bah le vent on en a dans le sud. Je vais prêter mes ailes de kite à Ludicali.
Au revoir.
Merci chers auditeurs, et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.
Radio Gruga, c'est bien.